Alors ce matin, nous allons regarder surtout ensemble ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5. Alors ce texte, on va commencer avec le verset 17 qui nous a été lu. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu. Souvent, j'ai entendu dans l'Église les gens dire « quand ils sont devenus chrétiens ?»« Quand est-ce que vous êtes devenus chrétiens ?» Et quand nous, dans notre équipe, on fait de l'évangélisation et on rencontre des gens qui disent « je suis chrétien », je pose souvent la question « quand est-ce que tu es devenu chrétien ?» chrétien. C'est un peu pour faire la distinction entre ceux qui se disent chrétiens parce qu'ils sont de culture et de tradition chrétienne et ceux qui ont fait l'expérience d'une nouvelle naissance, de devenir de nouvelles créatures en Christ. Mais avant tout, ce que je remarque dans ce verset, c'est pas nous qui devenons chrétiens, mais c'est Dieu qui nous appelle. Nous ouvrons nos cœurs envers lui, nous faisons appel à lui, mais tout cela, comme le dit Paul au début du verset 18, tout cela vient de Dieu. Le fait que nous soyons nouvelles créatures, c'est Dieu qui le choisit. Le fait que nous soyons nés de nouveau, que nous connaissons le Seigneur, c'est Dieu qui l'a voulu. Dans Jean chapitre 15, au verset 16, il est écrit « Et c'est Jésus qui nous parle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Avec tous les aléas de la vie en Christ, avec tous les hauts et les bas, il est bien de se souvenir que c'est Dieu qui est souverain et que c'est Dieu qui a créé non seulement les cieux et la terre, qui a créé l'homme, mais qui nous a créés et qui nous a choisis. On pourrait bien poser la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi ? On pourrait bien poser la même question dans l'Ancien Testament, pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ? Mais il est bien de se souvenir, surtout dans des moments de découragement, que c'est Dieu qui nous a choisis. Nous sommes bien des vases d'argile, mais la puissance de Dieu agit dans notre faiblesse. Et c'est Dieu qui nous a choisis, tout cela vient de Dieu. 1 Jean chapitre 4 au verset 9, nous lisons « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions pour lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Souvent, moi qui suis de famille juive, on me demande « mais quand est-ce que tu es devenu chrétien ?» Et je n'aime pas tellement cette expression « devenir chrétien », mais je suis croyant en Christ, je suis chrétien depuis que le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Il y a plus de 30 ans cela, j'étais étudiant et j'ai rencontré un chrétien à l'université en Angleterre, et il m'a dit deux choses qui me paraissaient tout à fait insolites. La première chose, c'était qu'il connaissait Dieu personnellement. Et moi, je me suis dit, quel chutzpah, quel culot, quelqu'un qui dit connaître Dieu personnellement. Et puis, il m'a dit une deuxième chose, il a dit, je suis chrétien depuis un an. Et moi j'ai répondu, mais Jeff, moi je suis juif depuis toute ma vie. Qu'est-ce que tu étais pendant 18 ans ? Et il a répondu par l'histoire que vous connaissez sans doute bien, Jésus qui parlait avec un rabbin et lui disait, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, une naissance spirituelle, il ne peut entrer le royaume de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. J'ai fait appel à Dieu de se révéler en Christ, et 2 ans plus tard, Jésus est venu dans ma vie. Je n'ai toujours pas compris pourquoi j'ai dû attendre 2 ans. Peut-être je faisais appel sans me repentir. Mais c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a établis en Christ pour porter du fruit qui demeure. J'ai une question pour vous. Quand vous étiez enfant, ou pour certains, puisque vous êtes enfant, certains ici, qu'est-ce que vous auriez voulu devenir quand vous étiez adulte, quand vous deveniez adulte? Alors, pour les enfants, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous êtes adulte? Et pour vous, les adultes, est-ce que vous avez accompli ce que vous désiriez en tant qu'enfant en pensant à l'adulte? Alors, je peux vous dire ce que moi, je voulais être quand j'étais enfant. Je me disais, quand je serai adulte, j'aimerais être diplomate. Vous savez, les Juifs, il y a une chose, je dis qu'on n'a pas ce don naturel, c'est d'être des diplomates. Et le Seigneur ne m'a pas conduit dans cette voie, je suis devenu expert comptable. Alors ça, c'est peut-être selon nos traditions, mais la diplomatie n'était pas un appel envers lequel le Seigneur m'a appelé. Je ne suis pas devenu ambassadeur. À un moment, quand j'avais 10-11 ans, j'étais dans une école en Angleterre, j'étais dans un pensionnat, mes parents habitaient au Luxembourg, et à Noël, je rentrais à la maison par avion avec Luxair, l'avion de la compagnie aérienne du Luxembourg. Je partais de Genève à Luxembourg. Une fois arrivé à Luxembourg, j'ai pris ce qui était ma valise, au moins je le pensais, et en rentrant à la maison, j'ai ouvert la valise et c'était rempli de fourrures et de vêtements de femmes. Alors, heureusement, mes parents savaient bien que ce n'était pas ma valise, elle ressemblait. On est retourné à l'aéroport et il s'avère que j'avais pris la valise à une dame très connue en Angleterre qui était la première à être à la télévision pour faire la cuisine. C'était le premier chef de la gastronomie connu par tout l'Angleterre parce qu'elle faisait des émissions à la télévision. Et elle était invitée à Noël pour être le chef cuisinier pour l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Et l'ambassadeur avait envoyé sa voiture, un Rolls-Royce avec le drapeau, pour amener cette dame à la résidence de l'ambassadeur, un grand bâtiment au centre du Luxembourg. Et moi, je me suis dit qu'il serait beau de devenir diplomate, de devenir même ambassadeur. Mais voilà ma déception que, au lieu de devenir diplomate, je suis devenu comptable. Mais voilà que quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'ai dévoré la parole de Dieu, l'Ancien, le Nouveau Testament, la Bible, la Nouvelle Alliance, et je suis tombé sur ce verset 20, où Paul dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ ». Ou dans la traduction qui nous a été lue, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et il s'agit de qui? Qui est le « nous » dont l'apôtre Paul parle? Eh bien, le « nous », c'est nous. Il s'adresse à tout chrétien. Bien sûr, il s'adressait aux lecteurs à l'époque, aux églises dans la région dont l'épître est écrit, Corinthiens, et dans les églises de la région, mais il s'adresse à nous. Nous sommes donc ambassadeurs de Christ. Nous savons tous que nous sommes appelés à être serviteurs. Cela va en soi. On connaît toujours cette épellation en tant que chrétien. Mais peut-être on s'attache moins au fait que nous ne sommes pas seulement, non seulement serviteurs, nous sommes aussi ambassadeurs. Et j'aimerais qu'on regarde un peu quel est le rôle de l'ambassadeur, quel est son statut, quel est son mandat et quel est son message. Quel est votre mandat, quel est votre statut, quel est le message que le Seigneur vous confie? Eh bien, c'est un statut, bien sûr, de privilégié. L'ambassadeur, c'est pas tout le monde dans le monde. L'ambassadeur, c'est avant tout celui désigné, cette personne spéciale, désignée par le chef, le roi du pays, le chef du gouvernement, le roi, pour représenter le roi, le chef, devant les autres nations. C'est un mandat honorable. Et notre roi, que nous sommes appelés à représenter, c'est le roi des rois. C'est le roi des Juifs, c'est Jésus lui-même. Nous faisons tous donc fonction d'ambassadeur pour représenter Jésus. Alors dans cette église, ce matin, il n'y a qu'un seul président, c'est Jackson. Il y a seulement quelques anciens. Alors si je ne me trompe pas, il y a Serge et José sont les seuls anciens ici ce matin. Un président, deux anciens, mais nous sommes une centaine d'ambassadeurs. Et tous appelés par le Seigneur pour le représenter. Mais un ambassadeur ne peut pas remplir ses fonctions en demeurant muet. Il est un porte-parole. Et parfois j'entends dans le monde chrétien certains qui disent « Mais vous, vous qui êtes évangéliste, vous menez votre vie chrétienne par la parole, nous on le mène, ou moi je le mène par ma vie exemplaire, enfin ils disent pas ça, mais ma vie en Christ, par les actions plutôt que la parole. » Mais Dieu ne sépare jamais les deux en Christ, action et parole. Nous sommes appelés à représenter le Christ par nos vies, par nos actions exemplaires, par notre obéissance, mais nous sommes des ambassadeurs qui ne peuvent pas remplir notre fonction si nous ne parlons pas de notre roi. Imaginez-vous un ambassadeur qui représente son pays, son roi, son chef, sans dire aux autres ce que son chef, son roi, lui confie à dire. Nous sommes dans la responsabilité et l'obligation en tant qu'ambassadeur de remplir notre devoir en parlant de Jésus-Christ. Je suis éternellement reconnaissant pour le chrétien à l'université qui était d'ailleurs chez nous hier. Il est maintenant doyen, ou plutôt directeur proviseur d'une école au Pays de Galles. Mais c'est un homme qui m'a témoigné de Jésus-Christ. Moi qui avais été éduqué en Angleterre en tant que juif dans des écoles dites chrétiennes, mais je n'avais jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ avant de rencontrer Jeff à l'université. C'est sa parole, la parole de l'évangile qu'il a annoncé, qui m'a expliqué la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parfois on pense ou on est surpris que les Juifs ne croient pas en Jésus, et je dis, mais comment voulez-vous qu'ils croient sans qu'ils entendent la bonne nouvelle ? Combien d'entre nous ici sommes venus à Jésus-Christ sans que quelqu'un nous parle de Jésus-Christ ? Combien de nous avons accepté Jésus ? Combien de nous avons repenti de notre péché avant d'avoir entendu par la bouche de quelqu'un, peut-être des parents, peut-être des amis, des collègues, peut-être le prédicateur, que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour notre péché et que nous devons nous repentir et faire appel à Dieu en Jésus-Christ pour nous pardonner. Il n'y a pas de nouvelle naissance à moins qu'on repentisse de notre péché, qu'on confesse notre péché, qu'on comprend que Jésus est mort pour notre péché et que l'on l'invite pour devenir le maître de notre vie. C'est un message qui a besoin d'être transmis par nous les ambassadeurs parce que nous sommes appelés à être des porte-parole. On ne peut pas être chrétien vivant avec une parole qui est muette, une parole qui n'existe pas. Et quel est le message dont l'apôtre Paul parle dans ce texte? Eh bien, regardons les versets 18 à 20. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui sans tenir compte aux hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ comme si Dieu adressé par nous son appel, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et le message est un message qui comprend avant tout la réconciliation. Quatre fois dans ces trois versets, il y a le mot réconciliation. Verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le service de la réconciliation. Verset 19, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et verset 20 à la fin, le message, soyez réconciliés avec Dieu. On voit tellement de guerre civile, de division dans le monde, non seulement en regardant par exemple au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Afrique, mais regardant dans nos familles les divisions qui existent, le manque de pardon, l'absence de réconciliation. Nous avons été pendant 15 ans missionnaires en France et quand il y a des accidents de voiture, quand il y a des désastres, on ne fait plus appel aux pasteurs et aux prêtres, on fait appel aux psychologues. On fait appel dans les disputes, dans les entreprises, à des psychologues ou des médiateurs pour chercher la conciliation. Il y a beaucoup de professionnels qui sont payés pour essayer de trouver la conciliation, que ce soit dans une famille, on va voir le psychiatre, le psychologue, dans une entreprise, le DRH, le département de ressources humaines, ou que ce soit dans la politique en essayant de trouver des accords de paix. Mais voilà que Dieu nous dit que la réconciliation, c'est en Christ. J'ai eu le privilège, le mois passé, de diriger une petite campagne d'évangélisation dans les rues de Zurich. Souvent, on pense que la mission, c'est dans les pays en voie de développement, les pays plus pauvres. Mais je dirais le grand besoin pour l'Évangile aujourd'hui, c'est l'Occident. Et Zurich est peut-être un des exemples par excellence de l'absence du Christ dans l'Occident. Il y a les bases de la tradition chrétienne, il y a une structure de l'État qui est exemplaire, il y a un niveau de vie qui est incomparable, mais les gens vivent sans Christ. Ils vivent sur leur propre force, leur propre capacité et ils vivent sans Christ. Et dans cette équipe à Zurich, un frère qui est originaire de la Libye, d'une famille musulmane qui est venue au Seigneur, à Jésus, en Angleterre par le témoignage de chrétiens, et qui travaille maintenant à Zurich. Et il s'est joint à notre équipe, une équipe de Juifs, de Suisses, de Suisses allemands, d'Allemands pour Jésus, pour témoigner de notre foi en Christ. Et nous avons quelque chose, quand je regarde dans cette église, vous êtes représentants de combien de pays dans l'église? Vous savez, quarante pays, et ce 43 pays, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, un en Christ, tous réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et par conséquence réconciliés les uns avec les autres. Je suis frustré combien de temps des chrétiens même, non seulement les médias, s'insurgent contre les injustices qui se déroulent, qui se situent en Israël ou en Palestine. Soit on se plaint des Juifs ou des Arabes. Et moi je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que des gens sans Christ se comportent comme s'ils étaient réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ? Vous pourriez seulement vous attendre qu'il y ait réconciliation entre Juifs et Arabes, entre Français et Maghrébins, entre Anglais et Irlandais, quand nous sommes un en Christ. Ça ne veut pas dire que les efforts politiques pour trouver une solution ne sont pas bonnes et louables, mais c'est nous qui sommes ambassadeurs en Christ qui avons la parole de la réconciliation. Et cette réconciliation doit se passer par Dieu en Jésus-Christ. Que ce soit des divisions, des disputes de famille, ou entre pays, ou entre races, ethnies, eh bien c'est uniquement en Christ. Nous avons le message de la réconciliation, et si nous gardons le silence, comment est-ce que le monde va le savoir ? Alors ce message est premièrement un message de réconciliation et deuxièmement c'est un message de supplication. Dans le texte qui est affiché, verset 20, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ comme si Dieu adressait par nous son appel. Parfois des gens me disent, mais les Juifs ils ont la Bible, pourquoi ils ne croient pas ? Et je dirais, s'il suffisait d'avoir la Bible, eh bien, nous serons tous avec les Gédéons. On placerait des Bibles partout. Tous les hôtels, toutes les écoles, tous les placements, les endroits du monde, on place une Bible et on se tait parce que la parole de Dieu est vivante et elle va toucher l'homme. La parole de Dieu est vivante et touche les hommes, mais c'est nous qui sommes les porte-paroles. Dieu adresse par nous son appel. Et quel est cet appel ? Soyez réconciliés avec Dieu. Mais que dit l'apôtre Paul ? Nous supplions au nom de Christ. En fait, dans la traduction en grec, il n'y a pas ces deux petits mots « vous en ». Ce n'est pas écrit en grec « nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». C'est écrit simplement « nous supplions ». Si on met « nous vous en supplions », on donne l'impression par le traducteur que c'est Paul qui veut supplier les chrétiens à Corinthe d'être réconciliés avec Dieu. Et il s'adresse déjà à des saints. Chapitre 1, verset 1, il s'adresse aux saints à Corinthe. Il s'adresse déjà à des chrétiens. Ce ne sont pas des personnes à qui il s'adresse qui ne sont pas déjà réconciliées avec Dieu. C'est sûr que c'était une église avec des divisions, ils devaient se pardonner et avoir la réconciliation qui se trouve en Christ. Mais dans ce texte, Paul est en train de rappeler à l'église à Corinthe quelle est leur fonction d'ambassadeur, c'est d'appeler les gens à être réconciliés avec Dieu. Il leur rappelle que leur fonction, c'est de supplier les gens d'être réconciliés avec Dieu. Et notre grand besoin dans l'Église, dans l'Occident, c'est d'être suffisamment réveillés, éveillés, enthousiastes, zélés, que nous soyons suffisamment attristés par l'absence de Dieu dans le cœur des hommes pour que nous supplions aux gens d'être réconciliés avec Dieu. Il y a un grand chrétien du 19e siècle, un des grands évangélistes, qui, le jour, il sentait toujours qu'il devait appeler les gens à venir au Seigneur, mais dans son ministère, il avait aussi ce cœur qui suppliait les gens à se tourner vers Christ. Un jour, il y avait un monsieur qui mourait, un vieil ami qui était endurci envers l'Éternel. Il est allé le voir et en larmes, il lui disait « Maintenant que vous approchez votre mort, je vous supplie de vous tourner vers le Christ. » Le premier verset qui nous a été lu, le verset 10 de ce chapitre, « Car, dit l'apôtre Paul, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le jugement de Dieu devant Christ est pour chacun de nous, chacun des gens du monde. » Et verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Nous n'avons pas en Christ à avoir peur du jugement, nous n'avons pas en Christ avoir peur de l'enfer, mais en Christ, nous devons nous rappeler que pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, l'enfer les attend. Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, tout comme pour nous, il y a le tribunal de Dieu, et chacun va paraître un jour devant Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que le monde va dire? On peut dire qu'on laisse à Dieu le jugement de chacun, mais aussi l'absence de jugement, l'assurance du salut, c'est une bonne nouvelle que Dieu a confiée à nous. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et l'appel qu'il nous lance, c'est de dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as appelés tous à avoir cette merveilleuse fonction d'ambassadeur. Merci Seigneur que tu nous appelles tous pour être des porte-parole. Seigneur, dans notre timidité, dans notre réserve, dans notre crainte et appréhension, Seigneur, rappelle-nous toujours que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Et Seigneur, rappelons-nous aussi ces paroles à Timothée, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. Seigneur, nous nous rappelons que cette puissance, cette force vient de toi, et que nous sommes des vases d'argile. Seigneur, nous voulons te consacrer nos vies pour être des ambassadeurs qui sommes porte-parole, qui apportons le message de la réconciliation en Jésus-Christ. Seigneur, bénis mes frères et sœurs et fortifie-nous afin que nous puissions assumer ce rôle que tu nous as appelés à faire. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.